fort, il y a un détenu qui s'est évadé. Voilà, il y en a un en tous les cas qui ne mourra pas à Corba. Voilà, donc on espère qu'il va réussir son évasion.
Émission en solidarité avec les détenus et leurs proches. Rubrique, émission contre toutes les prisons. Lecture de texte de prisonnières et prisonniers. Émission contre toutes les prisons. Message des proches.
La petite cuillère.
Bonsoir, c'est la petite cuillère, vous l'avez entendu, on est un tout petit peu en retard, mais ça y est, nous voilà.
Bonsoir.
Et ce soir, on va parler de... Bah, sans faire exprès, il y a un début de quand même d'émission thématique de la Toussaint, parce qu'on parlera d'abord de la paix qui maintient toujours le silence quand des personnes meurent en détention, le silence pour les proches de ces prisonniers et prisonnières mortes. Et on parlera après aussi de, à l'inverse, quand on est en détention et qu'on a des proches qui meurent, la paix qui maintient aussi l'inhumanité en empêchant de participer aux obsèques. Mais c'était pas fait exprès, donc c'est pas non plus complètement le thème de l'émission. On parlera aussi du Génépi après, qui n'a plus le droit d'intervenir et d'entrer en prison. On parlera de Yo-Yo, une nouvelle revue, un nouveau journal sur le contre tous les barreaux. On écoutera le témoignage de Samuel, qui est incarcéré au Brésil. Et puis on écoutera aussi un extrait d'une série qui a été produite sur Radio Baumettes, la radio qui est à la prison des Baumettes. On écoutera la rubrique des Lima Ongles, un nouvel épisode de la série de Panoptisme. Pardon. Et puis la rubrique à la fin Mégaphone, qu'on va même entendre dès le début de l'émission avec les messages sur le répondeur.
Et oui, parce que du coup, à la petite cuillère, c'est possible de nous contacter par différents moyens. Alors, on a un numéro de téléphone qui est donc le 07 81 35 93 71, sur lequel vous pouvez appeler à n'importe quel moment, laisser un message, et nous, on le rediffuse pendant l'émission, comme on va faire là tout à l'heure. Vous pouvez aussi nous écrire par mail à lapetitecuillere@riseup.net. Ou encore nous écrire des courriers à Atelier d'écriture, 24 rue Sergent Blandan, 69001, oui, à Lyon. Et c'est aussi possible de nous téléphoner en direct si vous voulez. Donc le numéro des studios de Canus est les 04 78 39 18 15. Et puis vous pouvez nous entendre du coup à Villefranche, Corba, à l'EPM de Mézieux, au CRA, a priori, de Saint-Exupéry, et peut-être à la Talaudière si on est rediffusé.
Mégaphone.
Phone. Méga. Méga. Phone. Méga.
Mégaphone.
Méga. Mégaphone.
Message dédicace pour tous les détenus des tôles de Corba, Saint-Quentin-Fallavier, Mézieux. Tous les 2e et 4e jeudis de chaque mois sur Radio Canu, 102.2 FM. Mégaphone, le temps d'exprimer sa solidarité, son soutien, le temps de faire un big up à ses potes, voisins, voisines, familles, en tout.
Allô ?
Mégaphone !
C'est la faute à qui ?
Incarcéré il n'y a pas longtemps, soit sur la prison de Villefranche, la prison de Corba. C'est pour mon frérot Halmi, dans le pluie. On n'a pas de nouvelles de toi, frérot, mais t'inquiète, on t'oublie pas. À tous les frères qui sont enfermés, et si tu as ce message, frérot, on te mettra même si on est là, frérot. Voilà, et voilà quoi, tous les frérots, je t'arf. Force et honneur à vous, les frères, et Inch'Allah, vous serez tous libérés bientôt. C'est moi, Ekoum.
Allô, c'est moi, Ekoum, message pour Halmi, mon frérot, voilà, et tous les frérots de Lyon 9e. Voilà quoi, Halmi, c'était pour te dire, frérot, on est là, on commence à savoir un peu, on a su que t'es passé jugement hier. Et ils veulent pas nous dire, ils veulent rien nous dire. Tiens-moi au courant, frère, moi, pour tes parents, comment ça se passe et tout. T'es, s'il y a bougé, s'il faut aller quelque part. Et voilà, frère, on est en train de mettre en place. Moi, je suis en train de voir, là, c'est fermé aujourd'hui. Je suis en train de voir pour la, pour les visites et tout. Casse même pas la tête, frérot. Voilà, tiens bon, la famille, et on va voir comment ça se passe. Voilà, c'est nous à tous les frères de Lyon 9e. Voilà, bon courage, les frérots. Big up à Bilal, frérot Bilal. Helmi, frérot, un peu plus. Voilà, Andek à toi, frère, si Haja, tiens-nous au courant. Allez, frérot. Salam, Akhi, frérot.
Voilà, donc pour les mégaphones, les messages que vous pouvez nous laisser sur le répondeur de l'émission, dont on a donné le numéro tout à l'heure et dont on redonnera le numéro au cours de l'émission. On continue avec une information. Alors en fait, c'est une info qui date du début du mois d'octobre, qui se passait à la prison de Perpignan. C'était le, bah, en fait, l'histoire, ça a commencé même bien avant. C'était en juillet, le 11 juillet dernier. David, qui était détenu à la prison de Perpignan, est mort dans la prison après 10 mois de détention provisoire. Un magistrat du parquet s'est tout de suite rendu sur place, puis il a finalement écarté l'hypothèse criminelle et donc il a ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort. En fait, c'est la procédure normale en cas de décès en détention. La conséquence, c'est que le corps a été transféré à l'Institut médico-légal de Montpellier pour y être autopsié. Et il s'y trouve toujours aujourd'hui à titre conservatoire, la procédure n'ayant pas encore abouti, puisqu'apparemment elle aurait pu être clôturée plus tôt, sauf qu'aucun membre de la famille du défunt ne s'était manifesté. Mais en fait, il y avait Madeleine, qui était donc son ex-compagne, et aussi la mère de ses deux enfants, qui multiplie depuis le mois de juillet les démarches pour récupérer la dépouille et pour comprendre ce qui s'est passé. Sauf que la loi impose de restituer une dépouille à sa famille, et Madeleine était l'ex-compagne du détenu. Donc le parquet devrait d'abord identifier les membres de la famille du disparu avant d'accéder à, ou pas à sa demande. Madeleine, elle a d'abord reçu un appel de la directrice de la maison d'arrêt le 12 juillet, donc le lendemain du décès, qui lui a appris la nouvelle. Elle devait être recontactée par la suite par la police pour récupérer le corps et organiser les funérailles. Et après plusieurs semaines de sans nouvelles, elle a envoyé un mail à la directrice de la prison qui lui a répondu que le procureur avait été saisi et qu'une enquête était en cours. Et un nouveau mail, trois semaines après, on lui dit là que sa demande a bien été transmise au parquet, qui va éventuellement lui répondre. Et début septembre, Madeleine a saisi directement le procureur de Perpignan, sans succès, sans réponse. Et puis elle a sollicité directement les services médico-légaux de Montpellier, où on lui a dit qu'elle devait d'abord présenter un permis d'inhumer pour pouvoir récupérer le corps. Et il se trouve que ce permis il est accordé par le procureur, qui ne répond pas. Du coup, elle se pose des questions, puisque elle disait que David était en parfaite santé, qu'il était bien entouré, qu'il venait de terminer une formation, que, enfin, elle comprend pas ce qui se passe, quoi, d'où ça vient. Apparemment, David, il s'était plaint de douleurs à la jambe quelques jours avant sa mort. Il a été admis aux urgences, il en est ressorti quelques heures après sans diagnostic clair, et puis il s'est effondré quelques jours plus tard sans jamais se relever. La direction de la prison, elle a parlé de symptômes d'une embolie pulmonaire. Le conseiller d'insertion et probation de David, il a aussi évoqué des maux de ventre. Et puis la direction de l'administration pénitentiaire a déclaré qu'il était mort des suites d'un arrêt cardiaque. Donc Madeleine ne sait pas trop quelle version croire parmi ces trois interlocuteurs, interlocutrices. Et en fait, c'est ce qui se passe en général quand quelqu'un meurt en prison, les proches n'obtiennent pas de réponse de l'administration. Il y a dans le code de procédure pénale, il y a l'article D427 qui prévoit, je cite, « Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d'une maladie mettant ses jours en danger ou victime d'un accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit être immédiatement informée. À cet effet, chaque détenu est invité lors de son écrou, donc au moment de l'entrée en détention, à indiquer là où les personnes qui seraient à prévenir. » Donc ça peut être la famille, mais en fait, il n'y a pas forcément de loi familiale si c'est la personne qui est emprisonnée qui choisit les personnes à prévenir. Et en cas de suicide, il y a même un protocole en plus qui est recommandé à l'AP, qui consiste à informer les proches le plus rapidement possible et qui précise aussi que le chef d'établissement doit proposer une rencontre à la famille. Et en fait, ce que montre la situation de Madeleine, c'est que dans la réalité, dans la plupart des cas, les proches se retrouvent souvent seuls et en plus général, on a du mal à savoir ce qui se passe, à obtenir quelques informations sur les morts en détention.
Et alors moi, je vais parler de morts aussi, plutôt des morts d'un proche quand on se retrouve détenu. Et alors, je vais lire en fait un texte que j'ai trouvé sur un blog Mediapart et c'est écrit par Émile Gabriel, qui est un ancien taulard. Alors, mort d'un proche, la peine d'inhumanité. Maison d'arrêt de Bois d'Arcy, mi-octobre de cette année. Ce détenu placé en détention provisoire apprend le décès de son père. Il demande et obtient de la juge d'instruction en charge de son dossier l'accord pour se rendre aux obsèques sous escorte. Les surveillants l'informent, une heure avant la cérémonie, que l'extraction n'aura pas lieu faute de personnel pour l'escorte. Pourtant, les services pénitentiaires avaient largement le temps de s'organiser en amont de cette extraction. Et en cas de défaillance de l'administration pénitentiaire, et jusque fin 2019, cette mission peut être assurée par les forces de l'ordre, policiers ou gendarmes. Il semble qu'en l'occurrence, et en dépit des délais pour s'organiser, trois grandes administrations de l'État se soient trouvées dans l'incapacité de se coordonner. Et le cas n'est pas isolé. Il y a quelques années, Pascal, détenu en maison centrale, obtient de la juge de l'application des peines le droit de se rendre sous escorte aux obsèques de sa mère, à 30 minutes par la route de son lieu de détention. L'heure s'avance. Lorsqu'il s'aperçoit qu'il va être en retard à la cérémonie, Pascal frappe à la porte. L'heure du début de la cérémonie est dépassée lorsqu'on répond à ses appels. Quatre surveillants sont devant sa cellule. « Pourquoi tu tapes ?» Pascal s'explique ordonnance de la juge en main, qu'il doit être extrait et que s'il ne l'est pas très vite, il arrivera aux obsèques en fin de cérémonie. Le surveillant l'informe alors qu'aucune extraction n'est prévue, le concernant. Pascal, s'il entend l'information, ne la comprend pas, faute de l'ordonnance qu'il serre dans ses mains. Il tente d'avancer vers la coursive. « J'ai l'autorisation de la juge d'aller à l'enterrement de ma mère, il faut m'y emmener maintenant ou je serai en retard », dit-il. L'un des surveillants, avec des gants en cuir noir, me raconte-t-il, comme si ce détail avait marqué symboliquement sa mémoire, le saisit alors brutalement à la gorge et le repousse violemment dans la cellule. Pascal, envahi par un sentiment d'injustice et d'incompréhension, tente alors à son tour de repousser les surveillants et de sortir de sa cellule. Il sera violemment tabassé et conduit au quartier disciplinaire. Puis il sera poursuivi pour violence sur les surveillants et écopera de 600 euros d'amende de dommages et intérêts pour chacun des quatre surveillants et d'une année supplémentaire de prison. Des histoires comme celle-ci, j'en aurai une quinzaine d'autres à rapporter ici, auxquelles j'ai assisté, que j'ai personnellement vécu ou que ceux qui les ont subies m'ont rapporté. Mais toutes se ressemblent sur le fond ou la forme et toutes décrivent le seul sens qu'on puisse, in fine, trouver à toute peine de prison, celle de l'inhumanité. Il conviendrait déjà dans un premier temps d'inscrire dans la loi que la participation aux obsèques d'un proche est un droit des personnes détenues et non pas une possibilité laissée à la bonne, point d'interrogation, volonté des magistrats, administration pénitentiaire et force de l'ordre.
On continue avec un morceau de musique.
Oui, Fruco y sus tesos, donc c'est un groupe de salsa colombienne et la musique elle s'appelle El Preso. Mais c'est toi qui l'annonce.
J'avais pas compris.
Oye, te hablo desde la prisión. Wilson Manyoma. Hormona. ¡Qué vaya! ¡Gracias!
eterno de mi madre. Ay, 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 solo espero que llegue. Ay, 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 el día que la muerte, ay, 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 me lleve a estar con ella. Ay, así, a cambiar a mi suerte.
Oui, alors du coup, eh ben, vous êtes bien sur Radio Canu et vous écoutez La Petite Cuillère. Alors peut-être qu'on peut rappeler comment on peut nous contacter.
Eh bien oui, alors on peut nous contacter de la manière suivante. En écrivant un mail à l'adresse La Petite Cuillère en un seul mot, lapetitecuillere@riseup.net, R-I-S-E-U-P.net. On peut aussi nous écrire par courrier sur du papier à la poste, comme dans le temps. À l'adresse Atelier d'écriture, 24 rue Sergent Blandan, 69001 Lyon, pour le courrier. Et enfin, on peut nous laisser des messages sur le répondeur, donc des messages vocaux, au 07 81 35 93 71. Le répondeur, c'est uniquement répondeur, mais par contre, c'est possible de l'appeler n'importe quand.
Et donc, j'enchaîne, moi, je vais vous parler du Génépi qui n'a plus le droit d'entrer en prison. Alors, lundi dernier, le ministère de la Justice a décidé de mettre fin aux subventions du Génépi. Ça faisait 42 ans que l'asso allait en prison. Et alors, déjà au printemps, la subvention avait été baissée de 40%, mais le précédent ministre n'avait pas voulu pour autant rompre le contrat avec le Génépi. Et alors, Nicole Belloubet, ben, elle l'a fait. Et alors, ce qui est assez frappant, du coup, avec cet arrêt de la convention entre l'AP et le Génépi, c'est qu'en fait, même si une asso n'a pas des positions ouvertement anticarcérales, et ben, du coup, le simple fait de parler des suicides en prison et des conditions de détention telles que le vivent les prisonniers, et ben, en fait, c'est un affront qui est fait à l'AP. Alors, pour le Génépi, donc, cette décision, elle est politique, même si ce qui est mis en avant par le ministère, c'est autre chose. Ce serait d'abord que l'asso aurait eu une baisse d'activité de 80% entre l'année scolaire 2014-2015 et 2017-2018. Et puis, le fait que le Génépi, il ait changé ses statuts en 2011, ce qui créerait un, je cite, « désaccord important sur l'évolution des missions que se donne le Génépi », selon le cabinet de Belloubet. Ces statuts ne disent plus donc qu'il s'agit de favoriser la réinsertion des détenus, mais d'œuvrer en faveur du décloisonnement des institutions carcérales par la circulation des savoirs entre les personnes incarcérées, le public et ses bénévoles. Donc c'est ça qui ne plaît pas, soi-disant. Mais alors sur son site, donc, l'association, elle explique ce choix. Donc la, le GNPI. Donc le terme enseignement ne correspondait plus aux activités que nous voulions proposer au sein des lieux d'enfermement. Et c'est là, pardon, mais en fait je suis en train de lire et je m'aperçois que c'est pas la fin que je voulais mettre. Je voulais pas relire du coup le communiqué du GNPI, mais du coup en fait c'est plutôt que l'association en fait elle se rend compte que c'est plutôt des prises de position justement qu'elle avait eu récemment, notamment dans le, des articles en fait de, du Passe-Muraille, qui est le journal du GNPI, ou alors des communiqués où elle avait utilisé des slogans un peu chocs comme « l'État enferme et la prison assassine » ou alors « la prison nuit gravement à la société ». Et en fait, c'est ces positions-là qui ont été considérées comme critiques envers le modèle de la détention, donc c'est ce que le ministère finalement leur reprochait au fond. Et donc du coup, le ministère refuse de subventionner une association qui s'attaque au fondement même de l'institution carcérale. Nous, c'est aussi, ben, ça finit par être une menace en fait, pour ben, toutes les assos qui voudraient faire sortir des informations sur ce qui se passe à l'intérieur. Et puis ça signifie aussi ben, qu'il y a de nombreuses activités qui vont être supprimées pour les détenus si le GNPI ne peut plus y aller.
Et on continue avec un autre journal, un nouveau journal qui s'appelle Yo-Yo contre tous les barreaux, dont le numéro 1 est sorti en septembre, je crois.
Ouais, en septembre 2018. Et on l'a retrouvé du coup sur le site Paris Lutte Info, et c'est un journal qui parle de ce qui se passe plutôt en région parisienne. En tout cas, il se trouve là-bas. Et alors, je vais vous lire la petite présentation. Yo-Yo, c'est un petit journal qui s'énerve contre toutes les tôles. Pour transmettre notre conviction que l'enfermement n'est pas là pour maintenir notre sécurité, mais celle d'un système qui fonctionne sur l'écrasage de gueule. Et réaffirmer notre désir de voir tout ça détruit. Mais avant ça, le yo-yo, c'est une des nombreuses débrouilles qui existent à l'intérieur. C'est un petit mot qui t'arrive par la fenêtre de la cellule de la part d'un ou d'une voisine. C'est un peu de tabac en cadeau en attendant la prochaine cantine. C'est le bigot que tu récupères après l'avoir mis à l'abri en prévision d'une fouille de cellule. C'est l'héritage que tu reçois d'un ou d'une pote qui est libérable. Plus précisément, le yo-yo, c'est la technique qui consiste à se passer des trucs d'une cellule à une autre grâce à des cordes lestées qui se balancent entre les fenêtres. Une technique qui permet de ne pas avoir à demander la permission au bâton-bâtonne, un contact entre les prisonniers et prisonnières loin de leurs yeux scrutateurs. C'est pour ça qu'ils posent des caillebotis et plexiglas sur les fenêtres qui entravent autant la lumière que les possibilités. Dans la tripotée des nouvelles prisons qui vont être construites, on se doute que toujours plus de moyens seront imaginés pour réduire la marge de manœuvre des taulards-taulardes. Ce plan de construction qu'on approfondit un peu ici, vendu comme les précédents sous une couche de vernis humaniste, n'est rien d'autre qu'un perfectionnement supplémentaire du contrôle et de l'enfermement. Encore plus de prisons, encore plus de monde enfermé, toujours plus de limites aux révoltes et aux solidarités. Que ce soit un yo-yo ou une tentative d'évasion, les résistances quotidiennes déplaisent et doivent être matées. Heureusement, malgré tous les efforts du pouvoir, les rébellions continuent de fleurir ici ou là, comme par exemple aux États-Unis. Nous vous en donnons encore de petites bribes dans ce numéro. D'ailleurs, pas sûr que ça se bouscule aux entretiens d'embauche de la paix si la Coupe du Monde de cramage de voitures de maton-maton se met à susciter autant de passion que le foot. Ni si chaque fois qu'un détenu meurt sous les coups, les réactions hostiles ne se font pas attendre dehors et dedans, comme cet été à Fleury-Mérogis. Donc, du coup, ce journal, juste avant de passer à la lecture d'un petit article qu'il y avait à l'intérieur, vous pouvez leur écrire à yo-yo journal, donc yo-yo yyo journal at riseup.net.
Et oui, on voulait en lire un article pour vous donner une idée, puis un article qui a l'air apparemment léger, il s'appelle Chronique estivale, révolte, évasion et solidarité. Vous verrez que ça a l'air périmé d'un côté, mais en fait ça vaut encore. Pendant que certains et certaines vivaient la canicule en cherchant de l'ombre, d'autres étaient déjà à l'ombre, mais sans ventilation. Et l'été apporte son lot de désagréments supplémentaires quand on est enfermé. À Marseille, au centre de rétention du Canet, problèmes d'eau et panne de climatisation ont mis le feu aux poudres en rendant de nombreuses personnes malades à l'intérieur. Le centre a été fermé, mais tout le monde n'a pas été libéré. À la prison de Villepinte, des détenus font sortir une vidéo dans laquelle ils montrent leurs blessures et leurs cellules ravagées par les matons. Ils demandaient à retirer le plexiglas qui empêche l'aération de la cellule. À Tarbes, 11 prisonniers ont refusé de remonter en promenade pour exiger de porter des shorts. Et puis il y a aussi la baignade que l'on ne peut pas avoir à l'intérieur, alors que certains ont quand même trouvé le moyen de faire rentrer une piscine gonflable en cellule. Certains ont aussi pensé aux glaces pour se rafraîchir, ce qui semble une terrible menace pour la paix. La justice a condamné à 6 mois de ferme une personne qui a tenté d'envoyer à ses potes à l'intérieur des kebabs et des glaces. L'été apporte aussi son lot d'incendies. À l'extérieur, les matons se plaignent de 4 séries d'incendies de leur voiture entre juin et août devant la prison de Fresnes. Nous, on s'en réjouit. À l'intérieur, le feu a été mis pour faire diversion lors d'une tentative d'évasion collective au centre de rétention de Lyon. De nombreuses autres évasions ont eu lieu cet été dans les centres de rétention de Toulouse et Palaiseau. Dans les prisons aussi, avec des plans de sortie pleins d'imagination et pour certaines réussis. À croire que la chaleur assomme un peu les matons. En espérant que cette vague d'évasion ne s'arrête pas avec les premières chutes de feuilles, bonne route à celles et ceux dehors et courage aux autres. Donc voilà, si vous voulez contribuer au journal, vous pouvez écrire à yoyojournal en un seul mot, @riseup.net.
Et puis sinon, bah, consultez du coup Paris Lutte Info pour les prochaines sorties. Et puis alors là, on va lire un témoignage de Samuel au Brésil qu'on a trouvé sur le site Prison Insider.
Manifestement, il va faire chaud aujourd'hui à Rio de Janeiro. À la prison d'Evaristo de Moraes, il y a plus de 30 cellules divisées en 5 galeries, ce qui représente plus de 1800 détenus. Il y a 40 lits et un peu plus de 60 personnes par cellule. Tout le monde dort, à l'exception du prisonnier désigné pour surveiller la cellule pendant la nuit. Collé au barreau, il est attentif à tout ce qui se passe à l'extérieur. Il est appelé Ligachao, liaison. Pendant que tout le monde dort, il fait le guet. Il est à peine 7h du matin lorsqu'il crie « Contrôle, levez-vous, le gardien est dans le couloir ». Rapidement, la lumière s'allume, les prisonniers se lèvent. Ils enfilent leurs chemises et leurs pantalons. Il arrive que le Bermuda soit interdit. Les mains dans le dos, ils baissent la tête. De l'autre côté des barreaux, dans le couloir, les surveillants s'apprêtent à ouvrir la porte. Seul l'un d'entre eux est autorisé à entrer pour effectuer le comptage. Sa vérification va des toilettes aux trous dans le sol, en passant par les objets cachés, un passage en revue d'éventuelles attaques et tentatives d'évasion. Pendant que le surveillant est à l'intérieur de la cellule, une équipe l'attend à l'extérieur en observant ses occupants. Le comptage est terminé, le nombre correspond bien à celui indiqué sur le tableau. Tout est en règle, tout est ok, le silence est obligatoire jusqu'à ce que l'équipe quitte le couloir. Un rideau de fer se ferme derrière elle, les prisonniers peuvent entamer leur journée. L'alimentation d'eau est ouverte, l'administration pénitentiaire finit par se rappeler qu'on en a besoin, ça n'arrive que 3 fois par jour. Certains prisonniers retournent dormir, d'autres courent à la douche, une petite file se forme, c'est la course, la liste des prisonniers convoqués auprès du juge arrive, d'autres doivent se rendre chez le médecin, les derniers se préparent pour aller en classe.
Il est tout juste 11h du matin. Des prisonniers rentrent de cours après une matinée d'études. Un petit chariot apparaît dans le couloir et des dizaines de boîtes contenant les repas arrivent. Le nombre de boîtes distribuées correspond au nombre exact de détenus en cellule. Après le déjeuner, aux alentours de 13h, l'accès à l'eau est de nouveau accordé pendant 60 minutes. C'est au tour d'un autre groupe de détenus de se doucher, puis d'aller en classe. Les toilettes et la cellule sont nettoyées avec l'eau restante. La cellule est propre. En fin d'après-midi, vers 16h, le second groupe revient de l'école. Le dîner arrive. Après que les prisonniers ont fini de distribuer le repas, une nouvelle équipe de surveillants arrive pour effectuer le dernier comptage de la journée. Les détenus convoqués par les juges sont comptés à part. Le gardien referme le cadenas, nous voici de nouveau verrouillés. La journée touche à sa fin, mais ni la prison ni la cellule ne s'arrêtent. Les agents sortent du bâtiment, les détenus sont enfermés. L'eau fait une dernière apparition durant 60 minutes. Collé au barreau, un prisonnier lance un baluchon accroché à une ficelle. La liaison commence. Pour cette raison, le guetteur est surnommé Ligasao. C'est grâce à ce système que sont commercialisées les drogues, les cigarettes, les snacks et tout le reste. La nuit tombe. Des prisonniers regardent le journal télévisé et des novellas. En prison, on adore les films et les novellas. Ça passe le temps. Il est 21h, les lumières s'éteignent. Certains vont dormir, d'autres lisent des livres ou quelques revues. Les convoqués rentrent, il est bientôt minuit. Collé au barreau, le Ligasao guette le lever du soleil pour annoncer le comptage des prisonniers. Une nouvelle journée commence.
On continue avec un épisode d'une série qui s'appelle « Hey Joe, comment tu vois le problème ?» C'est une série de chroniques humoristiques sur la prison qui ont été réalisées et diffusées sur Radio Baumettes. Radio Baumettes, c'est une radio qui a été lancée en 2002 par l'association socioculturelle des Baumettes, la prison de Marseille, et qui est diffusée sur le canal interne du centre pénitentiaire de Marseille. Le projet a été accompagné par une réalisatrice et productrice sonore qui anime une série d'ateliers tout au long de l'année Et puis lors de ces sessions, il y a des détenus qui se réunissent pour préparer des émissions, qui reçoivent des personnes de l'extérieur pour parler des thèmes précis, ou pour évoquer l'œuvre d'un invité par exemple, qui produisent des émissions scientifiques en partenariat avec les élèves ingénieurs de l'école des mines de Saint-Étienne par exemple, qui reçoivent des invités aussi de l'intérieur de la prison pour transmettre des informations quotidiennes ou administratives, et qui commentent les musiques qu'ils choisissent de diffuser, ou alors qui inventent à partir de leur vécu des fictions comme celle qu'on va écouter, enfin en tout cas le premier épisode, Hey Joe. Et cette série-là, elle a vu le jour après l'arrivée de Joe, donc à la radio en septembre 2014. Et dans cette fiction humoristique, à caractère documentaire, Joe transforme sa détention en croisière. Il a pris un séjour toute option, dont la formule atteste ironiquement qu'il n'y a pas de problème dans cette prison rigolote. On peut retrouver tous les épisodes sur le site oufipo.org. Oufipo, c'est O-U-F-I-P-O. La série, elle s'appelle « Hey Joe, comment tu vois le problème ?» Et ce premier épisode, c'est Imagine.
Voilà, eh bien, chers auditeurs, merci d'être de nouveau parmi nous cet après-midi ou ce matin. Il est toujours important de le préciser parce qu'on ne sait pas à quel moment l'émission sera diffusée. Hey Joe. Hey Joe, hey. Oh. Et toi, comment tu le vois le problème concernant ta détention? Oh.
Dans ma détention, je vois aucun problème. Alors je vais te dire que moi, je suis au Club Med, au club de mise en détention.
Ah oui, c'est sympa comme sigle.
Et j'ai pris le séjour avec pension complète. Et toutes les options de ce séjour. Voilà. J'ai l'impression d'être sur un paquebot. J'ai remplacé bâtiment par paquebot. Bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C, bâtiment D, avec des cabines. Les étages, pour moi, c'est pas des étages, c'est des ponts. Et sur les ponts, ils se promènent quoi? Des clients, avec des stewards. Quand j'entends parler de Jamel, moi ça me fait pas bien dans ma tête. Je suis pas un chien. Et moi je voudrais qu'on l'appelle room service. We're expecting you and love. Je suis au mouillage dans la calanque de Morjou.
Oui, c'est vrai qu'on est tout prêt.
On est tout prêt. Voilà, j'ai pris un séjour toute option, pension complète. Il t'offre un séjour avec le ciel bleu en permanence, la mer bleue en permanence. L'air marin que tu respires tous les soirs, parce que t'as pas de fenêtre, ils ont pensé à ça, te faire respirer l'air de la mer. Voilà. Enfin, je vois comme ça ma détention. Et ça me fait du bien.
Cette approche de ta détention, c'est plus le fait que tu pars pour quelques années?
Non, c'est parce que, court ou longue, la détention, c'est déjà difficile à vivre, et moi j'ai choisi de la vivre positive.
Oui.
Quoi qu'on ait fait comme délit ou crime, on doit le payer, on doit passer un certain moment en détention, autant le passer bien. Dans la tête, pour être bien dans son corps.
Hein, c'est pas mal.
Comme le disait le grand philosophe Balavoine, il faut remplacer les besoins par l'envie.
Tout à fait.
Je n'ai besoin de rien ici, mais j'ai envie de calme et de sérénité. Mmh. Et de passer une détention paix. Paisible.
Presque un couvent, quoi, en quelque sorte.
Sauf qu'on n'a pas Lennon. John Lennon.
Ah oui.
Hein? Imagine.
Imagine all the
Donc en fait, ta solution à toi, c'est non pas la croisière s'amuse, mais la galère on s'amuse, quoi.
Ah, si tu veux le prendre comme ça, oui, prends-le comme
oui,
ça.
Oui,
tu verras
galère.
Que tu te porteras mieux.
Tout à fait. Bon, mais il manquera juste les rames qui dépassent des fenêtres pour faire avancer le schmilblick.
Ah ben, ceux qui veulent ramer, qui rament. Hein.
Oui, il y en a toujours qui rament.
Voilà.
Vrai.
Mais on les aidera.
Tout à fait.
On fera preuve de solidarité.
Tout à fait. En cas de vraiment, vraiment panne d'énergie, on sortira les voiles.
Voilà, c'était notre rubrique. Et toi, tu vois comment le problème ?
À bientôt, j'espère.
Allez, bye.
Preguntas sin respuestas.
Sí, porque hay que preguntar.
Hacia una tiranía.
A ustedes.
Que tiene a 11 millones.
Yo.
Sufriendo en una isla.
11 millones de personas.
Es Nomi Queen.
Daikoy en Zappi. Guarida Record.
Únicamente preguntando.
¿Hasta cuándo?
Tantos inocentes en prisión, tanto servicio al turismo con hambre en la población. ¿Hasta cuándo la presión deja la muela ya? La miseria es seria, seria, la gente no aguanta más. Son 50 años con el mismo bla bla bla, pero guste o no te guste, se acerca la libertad. ¿Dónde está la igualdad que se prometió, señor? Lo de todo es para el pueblo, pero le dio lo peor. Hágame el favor y respóndeme hasta cuándo vamos, que están esperando que suceda lo mejor. A lo mejor sucedió, pero nadie se enteró. El abuelo se partió y en secreto se enterró. El otro decidió no trancar el dominó, porque ya no hay quien componga la morronga que dejó. ¿Hasta cuándo? Dale, ven y contesta. El banco se hunde o yo, ya se te acabó la fiesta. El pueblo protesta, sin miedo se manifiesta. Y aunque tú no respondas, ellos tienen la respuesta.
¿Hasta cuándo? Es mi pregunta más usual. ¿Hasta cuándo? Cuba oprimida estará. ¿Hasta cuándo? Tendremos que emigrar. ¿Hasta cuándo? Nos negarán la libertad. ¿Hasta cuándo? Habrá que soportar. ¿Hasta cuándo? Que nos quieran manipular. ¿Hasta cuándo? Tendrá el pueblo que sufrir. Digan cuándo, cojones, mi Cuba va a ser feliz.
Hoy me queda la esperanza de ver a mi tierra libre, donde los que distintos pensamos muestren su calibre, donde los que dirigen se den cuenta que no sirve y para algún lugar cerquita como Márquez emigre. ¿Hasta cuándo? Respinga mi cubita linda. Los gringos y las gringas se comen los de mi bro. No se rinda, siga, pa' que los distinga. Dejen de comer moringa y respeten la población. Problemas en la ciudad, en los boches puñalá, y el vecino te vigila pa' después ir a cantar. Al final, las seres no es que son tan malos nada, pero eso es lo que conlleva el hambre y la necesidad. Y lo que más gracia me da es que no fueron ni a primaria, pero si saben gritar, Ani Sánchez mercenaria. No es fácil, ya es de ti si llevan la contraria, que emplean en ti toda la fuerza que les da la claria. Por eso en varias ocasiones he manifestado lo que he sentido y lo que me ha salido de mi rabo. Frustrado por lo que en su niñez pasaron, y el pueblo sin comerla ni beberla, coger palo luego imponen. Acto seguido quieren que respeten, y lo que nosotros sentimos que al retrete. No, Pepe, no callan lo que siento yo, no me hubieran metido preso por jugar dominó.
¿Hasta cuándo? Es mi pregunta más usual. ¿Hasta cuándo? Cuba oprimida estará. ¿Hasta cuándo? Tendremos que emigrar. ¿Hasta cuándo? Nos negarán la libertad. ¿Hasta cuándo? Habrá que soportar. ¿Hasta cuándo? Que nos quieran manipular. ¿Hasta cuándo? Tendrá el pueblo que sufrir. Digan cuándo, cojones, mi Cuba va a ser feliz. ¿Hasta cuándo? Es mi pregunta más usual. ¿Hasta cuándo? Cuba oprimida estará. ¿Hasta cuándo? Tendremos que emigrar.
Alors vous venez d'écouter Normie Queen avec la chanson Hasta Cuando.
Que vous pouvez aussi aller écouter au Femmes 6 Fest à Saint-Etienne à partir de ce soir.
Et puis là tout de suite on va écouter la rubrique Lime à ongles.
Leur force, nous faire croire que leurs murs sont infranchissables. Notre force, montrer que chaque jour, des personnes arrivent à les contourner, les franchir et détruire un petit peu. La lime à ongles, une rubrique sur toutes les évasions.
Alors on commence avec jeudi dernier où un détenu de la maison d'arrêt de Reims a pris la fuite. Alors il a bénéficié donc d'une permission de sortie et pendant cette permission de sortie, donc il est allé faire une activité pédagogique en forêt et c'est là où il a pris la fuite pendant le déjeuner. Et alors même s'il y a eu d'importants moyens qui ont été mis en place pour le retrouver, donc il y avait les policiers de Saint-Nazaire qui étaient équipés de chiens, il y a eu un hélicoptère qui ont été déployés, et ben malgré tout ça, il n'a pas été retrouvé. Alors on lui dit bravo.
Et puis un autre détenu qui a été incarcéré depuis peu de temps au quartier pour peine aménagée de Nantes s'est fait la belle en pleine nuit. L'homme qui est âgé de 21 ans a été condamné à une peine de 4 ans et il a démonté sa fenêtre, puis sauté du premier étage avant de s'évaporer dans la nature.
Et bah ouais, c'est les deux seules évasions qu'on aura racontées. Et là on va écouter du coup le 8e épisode de Panoptisme qui se retrouve aussi sur SoundCloud.
Pour avoir une tranquillité en cellule, en maison d'arrêt, c'est pratiquement impossible. Hein. Il y a la promiscuité, il y a celui qui est là, qui va aux toilettes, l'autre qui se lave son assiette ou qui boit un coup, l'autre qui parle avec un tel. Même si la promiscuité n'est pas violente.
Cezaevinde herkes duyguları kendi kişisel yönelimine göre yaşar. Ben kişi olarak ben o duygularımı edebiyatı ve şiire verdim. Kendi hüzünlerim, yarım kalmışlıklarım, özlemlerim, işte çekip gitme duygum genelde şiirlerime yansıdı. Siyasi bir kişiliğim olmasına rağmen, kimliğim olmasına rağmen ve siyasi ortamlarda bulunmama rağmen o dönem yazdığım şiirlerin hepsinin bireysel ve kişisel duyguların bir iç serimi olduğunu görüyorum. Şiir benim açımdan çok güçlü bir yaşam kaynağı oldu. Bugün daha iyi görüyorum onu cezaevinde.
En prison, chacun vit ses émotions selon son caractère. Moi, je canalisais mes sentiments dans la poésie et la littérature qui ont été une source de vie puissante. Malgré mon identité politique et l'environnement politique de la prison, mes mélancolies, mon sentiment d'inachèvement, mes nostalgies, mes envies de tout laisser et de m'en aller se reflétaient dans mes poésies.
Pour être seul dans une cellule où j'étais moi, toutes les cellules où je suis allé d'ailleurs, il y a un seul moyen, le casque, donc écouter France Culture ou de la musique, pourquoi pas, et s'allonger sur son lit, quoi. Son lit qui est la petite maison, qui est le coin, le repère, quoi. C'est mon lit, tiens, je vais sur mon lit. Et personne va sur le lit d'autrui, quoi. C'est son lit. Et là, bon, le seul moyen de s'évader, c'était le casque et la radio. La plupart avaient un casque avec une radio, quoi. Et où, quand ils n'avaient pas une radio, ils mettaient un casque, ils lisaient pendant que les autres avaient un casque, quoi. Et l'évasion, elle se fait. On arrive tout doucement à se cultiver un monde extérieur tout en étant au milieu des autres. Donc, au milieu de cette promiscuité qui est quand même lourde à supporter, on arrive à s'isoler, à se tenir distant des autres. Voilà, c'est faisable.
Notre identité et notre conscience politique développent chez nous une résistance contre certaines choses que nous subissons dans ce milieu. Nous luttions pour un monde libre et de paix, et ce combat nous donnait de la force face à la solitude.
Siyasi kimliğini ve siyasi bilincimiz o ortamda mahrum kaldığımız bazı şeylere karşı bir direnç geliştiriyor bizde. Bir adli mahkum gibi yaşamıyorduk biz. Siyasi kimliğimiz vardı, bir idealimiz ve amacımız vardı. Biz özgür ve barış içinde bir dünya için mücadele eden devrimcilerdik. Bu duygunun kendisi yalnızlık karşısında da bir güçlü olmamızı getiriyordu.
T'es humain et parfois t'as besoin d'être seul. Moi je le faisais pas, mais certains tiraient un rideau autour de leur lit. Je considérais cela comme quelque chose de tout à fait humain, mais certaines organisations l'avaient interdit. Car pour eux, on ne pouvait être fort que collectivement, et il ne fallait pas trop s'enterrer dans des sentiments individuels.
Ama insansın ve zaman zaman o duyguyu yaşamak istiyorsun. Ben yapmadım ama bazı arkadaşlar mesela ranzaların etrafına perde girerlerdi. Ben bunu çok insani bir hal olarak görüyordum. Ama bazı arkadaşlar cezaevinde bireyselleşmeyi geliştirdiği için bazı örgütler resmi olarak yasaklamışlardı zaten perde germeyi ranzaların etrafına. Buna göre, bu anlayışa göre ancak kolektif olarak biz güçlü olabilirdik. Yani çok fazla bireysel duygulara gömülmemek gerekirdi. Ama zaman içerisinde insanın kendi kişiliğini ve bireyselliğini yansıyan bir noktaya geldi. Böyle olunca içeride bastırılmış kişisel duygular dışarıda ise kolektif görünen bir insan tipi ortaya çıktı. Kendimizi aslında iki kişilik taşıyorduk. Yani bir içerideki kendi kişiliğimiz, bir de dışarıda insanların gördüğü örgüt kişiliği. Bunların ikisinin karşı karşıya gelmesi ve çatışması korkunç bir şeydi.
La rencontre et le conflit entre ces deux personnalités était quelque chose d'effrayant.
En Saint-Anne, il n'y a pas de dimension visuelle, donc c'est pour ça que l'imagination est importante. L'imagination crée le champ de vision. Et l'imagination, elle peut partir à compter de quel phénomène. Ben, pour certains, c'était la télévision, je m'évade, mais à mon époque, en 85, la télévision n'était pas là. Et pour d'autres, c'est la radio, en l'occurrence moi, et la lecture notamment. La radio surtout, parce que France Culture, c'est une radio qui nous fait voyager, qui nous amène un peu partout sur toute la planète. Voilà.
Pardon.
L'heure du courrier, c'est un moment important.
Prison, les lettres étaient très importantes.
Il y a la suite de l'épisode 9 donc, qui s'est lancé sans qu'on le veuille. Vous êtes toujours sur la petite cuillère, sur Radio Canu. On arrive à la fin de l'émission, mais il nous reste encore quelques petites choses à écouter. Donc déjà, on va réécouter du coup, les messages qui ont été laissés sur notre répondeur. Et je rappelle le numéro de téléphone si jamais vous voulez laisser des messages à des proches qui sont en détention. Le numéro, donc, c'est le 07 81 35 93 71. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez, parce que vous tombez directement sur une messagerie. Et donc ensuite, nous, on remet les messages pendant l'émission. Si vous voulez nous écrire par mail, vous avez lapetitecuillere@riseup.net. Ou encore, vous pouvez nous envoyer des cartes à l'atelier d'écriture 24 rue Saint-Jean-Blandon 69001 Lyon. Et ça, c'est par exemple si vous voulez soit effectivement contacter des proches ou alors nous raconter ce que vous vivez à l'intérieur ou à l'extérieur, et comme ça on pourra en parler pendant l'émission d'après. Et puis voilà, c'est parti, on réécoute les messages alors.
Mégaphone.
Phone. Méga. Méga, phone, méga,
mégaphone,
mégaphone.
Message dédicace pour tous les détenus des tôles de Corba, Saint-Quentin-Fallavier, mes yeux. Tous les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois sur Radio Canu 102.2 FM. Mégaphone, le temps d'exprimer sa solidarité, son soutien, le temps de faire un big up à ses potes, voisins, voisines, famille, entourés.
Allô.
Allô, salam alaikum les frères. Écoutez, c'était pour laisser un message un frérot là normalement qui doit être incarcéré il y a pas longtemps, soit sur la prison de Villefranche, sur la prison de Corba. C'est pour mon frérot Halmi, d'ample pluie. On n'a pas de nouvelles de toi, frérot, mais t'inquiète, on t'oublie pas. À tous les frères qui sont enfermés, et si t'as ce message, frérot, mettra même si on est là, frérot, voilà. Et voilà quoi, tous les frérots, je t'arf. Force et honneur à vous, les frères. Et Inch'Allah, vous serez tous libérés bientôt. C'est moi, Ekoum. Allô, c'est moi, Ekoum. Message pour Halmi, mon frérot. Voilà, et tous les frérots de Lyon 9e. Voilà quoi, Halmi, c'était pour te dire, frérot, on est là, on commence à savoir un peu, on a su que t'es passé jugement hier. T'es, ils veulent pas nous dire, ils veulent rien nous dire. Tiens-moi au courant, frère, moi pour tes parents, comment ça se passe et tout. T'es, s'il y a bouger, s'il faut aller quelque part. Et voilà, frère, on est en train de mettre en place. Moi, je suis en train de voir, là, c'est fermé aujourd'hui. Je suis en train de voir pour les visites et tout. Casse même pas la tête, frérot. Voilà, tiens bon, la famille, et on va voir comment ça se passe. Voilà, sinon, à tous les frères de Lyon 9e. Voilà, bon courage, les frérots. Big up à Bilal, frérot Bilal. Halmi, frérot, un peu pluie. Voilà, Andek à toi, frère, si Haja, tiens-nous au courant. Allez, frérot. Salam, akhi, frérot.
Et voilà, il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission pour vous proposer trois rendez-vous dans les jours qui viennent. Le premier, c'est vendredi 9 novembre, la semaine prochaine, à la librairie La Griffe, une rencontre avec Paul Malo, qui est auteur de Sécurité maximale, le miroir déformant. Paul Malo, il a été condamné à perpétuité au Canada. Il a passé 2 ans dans les QHS, dit bloc supermax. Et il a été libéré après 13 ans et demi d'incarcération. Et donc ce livre, ça raconte cette histoire sur les prison de haute sécurité au Québec. Et ce sera animé aussi la discussion par Jacques Lesage de La Haye, qui lui, il a été aussi en prison à Caen pendant les années 60, pendant 11 ans. C'est un militant anarchiste, un psychothérapeute qui a écrit notamment des livres sur la prison et qui anime l'émission Ras les murs sur Radio Libertaire à Paris. Donc c'est vendredi 9 novembre à 20h à la librairie La Griffe, rue Sébastien Griffe.
Et il y a un autre rassemblement, donc ça ce sera jeudi 15 novembre à 13h devant le tribunal de grande instance à Lyon. C'est pour soutenir donc Christophe qui est postier et qui en fait se retrouve face à l'administration, donc la police, parce qu'il s'est fait agresser alors qu'il était en plein travail. Il était garé place des terreaux pour livrer un colis et il y a une vidéo qui a tourné où on voit les flics qui l'interpelle assez violemment. Et en fait, suite à ça, les flics ont porté plainte contre lui pour violence. Donc c'est pour ça qu'il y aura un qui va passer au tribunal donc le 15 novembre, mais aussi il y a la Poste, donc sa direction, qui a décidé de le licencier. Il est en pleine procédure de licenciement. Et alors, il y aura la réponse de cette procédure de licenciement après la réponse du tribunal. Donc il faut être nombreux devant le tribunal le 15 novembre. C'est à Lyon, 3e.
Et 2 jours après encore, le 17 novembre, le samedi à 15h, une rencontre à Saint-Étienne organisée dans le cadre du festival Les Mots des Livres. C'est une rencontre avec Nadia Mélanger, qui est autrice de À ceux qui se croient libres, un livre documentaire qui retrace la lutte de plusieurs détenus dans les années 80, dont Thierry Chahabi, un des leaders du mouvement anticarcéral de l'époque. Une rencontre avec aussi Bertrand Leclerc, qui a écrit Par la ville hostile. C'est une œuvre inspirée d'un fait réel qui raconte l'expulsion locative d'une femme dont les deux fils ont été condamnés pour trafic de stupéfiants au sein de la cité. Et ça se passe au Remue-Méninges, c'est un café lecture associatif à Saint-Étienne le 17 novembre.
Et puis nous, on se retrouve du coup maintenant les 1er et 3e jeudi de chaque mois, donc la prochaine, et c'est jeudi 15 novembre. Et puis là, on va laisser la place à l'émission d'après qui est Dance Maniac.
Et bonne soirée. Et salut.